Bienvenue sur Chronique, les séries de podcasts inédits de Mapato. Dans nos podcasts, nous donnons la parole à des patients, des aidants et des soignants. Alimentation, sexualité, travail, gestion du quotidien, prise en charge, nos invités nous partageront leurs expériences, leurs conseils et leurs visions. L'objectif est simple, informer et déstigmatiser la vie avec une pathologie dans un esprit positif et collaboratif. Je suis Lorraine, je suis patiente chronique et je serai votre hôte sur Chronique. Je vous emmène à la découverte de ces témoignages qui, je l'espère, pourront vous éclairer et vous accompagner au quotidien. Ce nouvel épisode de Chronique est rendu possible grâce au site autismeetsommeil.fr. Il s'agit d'un site d'information à destination des familles d'enfants avec troubles du spectre de l'autisme, TSA, et des professionnels de santé s'occupant de ces enfants. Son objectif est de leur apporter les informations et les outils facilitant la prise en charge des troubles du sommeil. Le dernier épisode de Chronique nous plonge dans le monde fascinant de Salomé, une jeune femme de 23 ans ayant un trouble du spectre autistique diagnostiqué en fin d'année 2020. Dans cet épisode, Salomé partage son parcours, ses passions et sa lutte contre les troubles du sommeil, offrant un témoignage inspirant et instructif. Salomé, une artiste dans l'âme, nourrit une passion pour l'écriture, le dessin, la musique et les jeux vidéo. Elle a notamment travaillé en tant qu'assistante de vie scolaire, AVS, et accompagnatrice d'élèves en situation de handicap, AESH, avec de jeunes adultes ayant un trouble du spectre de l'autisme, développant ainsi une compréhension unique des défis auxquels ils font face au quotidien. Le diagnostic du trouble du spectre autistique n'est pas venu de manière spontanée pour Salomé, mais a été suscité par ses proches. Des tests approfondis ont finalement confirmé le diagnostic. Cela a été un moment de révélation pour Salomé, car de nombreuses questions sans réponse trouvaient enfin une explication. Parmi les défis auxquels Salomé a dû faire face depuis son enfance, les troubles du sommeil ont été particulièrement importants. Elle a toujours eu du mal à s'endormir, un problème qui s'est intensifié avec l'âge. Ses émotions et son anxiété ont exacerbé ses troubles du sommeil. Pour lutter contre ces difficultés d'endormissement, les parents de Salomé ont développé des astuces créatives, comme des histoires et de la musique apaisante. En grandissant, elle a dû mettre en place des routines et des habitudes pour favoriser un meilleur sommeil. Salomé a également trouvé du réconfort dans la méditation guidée, qui l'a aidé à s'endormir plus sereinement. L'épisode de Chronique met en lumière l'importance de la patience et de la compréhension lorsqu'il s'agit d'aider les personnes ayant un trouble du spectre autistique à gérer leurs besoins. Salomé partage son expérience d'analyse quotidienne, cherchant à comprendre les déclencheurs de ses émotions et de ses troubles du sommeil, afin de trouver les clés pour une meilleure qualité de vie. Je vous laisse sur notre conversation et vous souhaite une excellente écoute. Bonjour Salomé.
Bonjour.
Merci de pouvoir partager avec nous sur le podcast Chronique ton expérience. Je voudrais commencer par une première question. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît ?
Oui, bien sûr. Je m'appelle Salomé. J'aurai 23 ans dans 2 mois et j'ai été diagnostiquée autiste fin 2020. Dans la vie, mes passions, c'est surtout l'écriture, le dessin, le cinéma, la musique et les jeux vidéo. Et j'ai pu travailler par le passé avec des enfants autistes, notamment parce que j'ai travaillé en tant qu'AVS et AESH.
Chouette. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus justement sur ton diagnostic que tu as eu fin 2020?
Alors oui, en fait, ça a été provoqué par mes proches, notamment ma moitié qui en fait avait des sérieux doutes et qui m'a dit « bon, ça sent un peu la neuroatypie ». Donc suite à ça, j'en ai parlé avec le reste de ma famille qui confirmait qu'eux aussi se disaient qu'un test s'imposait. Du coup, j'ai passé mon test et donc il est revenu positif. Je l'ai passé auprès d'une psychologue professionnelle qui faisait vraiment ça, c'était sa spécialité. Et à côté, je suis suivie par un psychiatre et une psychologue.
Ok. Et justement, ton enfance, ton adolescence, tu t'es posé des questions et tes parents aussi ou pas?
Alors, pas vraiment. En fait, j'étais suivie depuis assez longtemps, mais on partait plutôt sur des questions d'anxiété, de dépression. Mais la question de l'autisme n'a pas forcément été soulevée. Mais depuis qu'on en a parlé, en fait, ça tombe un peu sous le sens. Et quand j'en parle avec mes amis, par exemple, que je leur annonce, il y en a très peu qui sont surpris. À chaque fois, ils disent tous, oui, ça m'étonne pas forcément. Mais c'est vrai que jusqu'à l'année 2020, on avait des questions sans réponse, mais la question de l'autisme n'était pas forcément soulevée.
Ok. Et quand tu parles justement des tests que tu as fait, cette prise en charge, donc comment ça se passe? C'est de toi-même tu as cherché un professionnel de santé? Enfin, comment ça s'est passé?
Alors en fait, j'ai eu de la chance parce que mon papa était dans un groupe de travail en fait interprofession. Et au sein de ce groupe, il y avait cette psychologue était professionnalisée là-dedans. Et donc, on est passé par cette dame pour faire mon diagnostic.
Ok, ça marche. Et une fois que justement cette professionnelle de santé a posé le diagnostic, est-ce qu'elle t'a orienté vers d'autres professionnels de santé? Comment ça s'est passé?
Alors, plus ou moins, comme j'étais déjà suivie, en fait, j'ai eu le rapport pour le partager avec les personnes qui me suivaient. Elle m'a donné des pistes de techniques à mettre en place. Elle m'a parlé notamment de théâtre, ce que j'ai pas fait parce que c'est trop compliqué pour moi. Mais elle m'a donné voilà des pistes et elle m'a donné ce dossier pour que je puisse voir ensuite avec ma psychologue et mon psychiatre, avec qui on a pu mettre des avec qui on a pu discuter, et suite à ça, ils ont pu aussi me proposer des choses, et notamment aussi me parler de limites en adéquation avec ce que je suis capable d'endurer, de supporter, et ils ont bien compris où est-ce que s'arrêtent mes capacités pour que je reste en bonne santé. Et donc c'est vrai qu'ils prennent en compte, quand ils me conseillent, ils prennent toujours en compte donc ce diagnostic, ma situation, pour me dire par exemple bah ce genre d'études, ce type de travail, c'est pas forcément fait pour ton profil.
Ouais. Bon, au moins c'est adapté justement à ta situation, à toi, et c'est beaucoup plus simple en fait pour toi.
Mais voilà, je pense que l'adaptation, être vraiment écouté, l'adaptation personnelle, bah, de toute façon quand on parle de l'autisme, on parle d'un spectre, et donc je pense que c'est important de prendre individuellement et de tester les limites, de comprendre les difficultés de chacun qui sont pas forcément les mêmes.
Tout à fait. Et justement, une fois que ton diagnostic a été posé, est-ce qu'il y a eu des démarches particulières à mettre en place pour ton quotidien ou pas spécialement?
Alors, pas des démarches, j'ai pas fait de démarches vraiment officielles, mais dans mon quotidien, ça m'a beaucoup aidé avec mes proches, que ce soit mes amis ou ma moitié, par exemple. Parce qu'en fait, il y a toute une partie de mes comportements, de mes réactions qui tombaient sous le sens. Et en fait, ça a pu beaucoup faciliter mes échanges ou des moments où ma moitié pouvait se demander pourquoi je réagissais comme ça ou qu'est-ce que voulait dire ce genre de comportement. En fait, ça s'expliquait assez bien avec l'autisme. Et donc, ça a pu me permettre de faciliter en fait les échanges, mes relations. Parce qu'en fait, il y avait cette sorte d'explication, et pas d'excuse, mais de justification qui parfois pouvait faciliter la compréhension et se dire pourquoi là, j'arrive pas à expliquer ça, probablement à cause de l'autisme. Dans les démarches que j'ai pu faire, c'est que j'ai pu avoir un PAEH,
PAI, ouais.
PAI, j'ai pu avoir un aménagement à la fac par rapport à l'autisme, justement par
OK.
rapport à mon. Parce que comme je pouvais être très stressée pendant les examens. Que j'avais besoin de faire des pauses parce que je pouvais être fatiguée ou stressée. J'ai eu un PAI qui me permettait de sortir des salles d'examen, de prendre des pauses en cas de trop gros stress.
Comment tu as abordé ce sujet avec tes proches une fois que tu as eu ton diagnostic? Enfin, est-ce qu'il y en a certains qui étaient avec toi au moment du diagnostic? Est-ce que tu en as parlé ouvertement avec tes proches?
Alors, j'étais seule au moment du diagnostic, mais oui, en fait, j'en ai tout de suite parlé ouvertement avec mes proches. Donc, mes parents, évidemment, étaient au courant et m'ont suivi dans toutes les démarches. Ma moitié, pareil. Et pour ce qui est de mes amis, j'ai aussi. Je leur en ai parlé tout de suite parce que, déjà, il y a une partie de mes amis qui, effectivement, est neuro-atypique. Donc ça aide. Et c'est vrai que je pense que j'avais aussi besoin d'en parler pour. Il y avait aussi une question de rendre ça un peu réel et d'acter le diagnostic parce que c'était pas anodin, parce que ça répondait à beaucoup de questions. Donc c'était important pour moi de l'acter et de confirmer en fait effectivement cette réponse qui tombait sous le sens, c'était important. J'ai aussi pu en parler quand j'étais dans le monde du travail. Et typiquement, du coup, l'année dernière, je me suis occupée d'un jeune homme autiste au lycée. Et c'est vrai que j'en ai tout de suite parlé à ses parents, à lui, de mon autisme. Parce que dans mon travail, je pense que j'arrive à le tourner un peu comme une force. Et je pense que c'était important pour moi de leur parler de ce point de vue, ce qui expliquait aussi comment je pouvais interagir avec mon élève.
Ça a dû rassurer aussi un peu les parents, je pense, de voir que toi aussi, tu avais un trouble du spectre autistique, parce que tu pouvais aussi bien comprendre certains aménagements en fait qu'ils pouvaient avoir.
Oui, je pense. Bah, ça s'est très bien passé, donc je pense que c'est bon signe. Mais oui, effectivement, je pense que ça les a rassurés, que ça a pu leur expliquer aussi justement c'est mon approche qui doit être parfois un peu différente d'une personne neurotypique. Et je pense que même avec cet élève, je pense qu'il y avait une sorte de confiance qui s'est instaurée. Et en tout cas, moi, je ne parlerai pas à sa place, mais moi, je sais que je pense que ça me rassure d'avoir des personnes près de moi qui pensent de la même façon que moi et qui traversent les mêmes choses que moi, parce que la compréhension n'est quand même pas la même quand on vit les choses et quand on les,
c'est ça.
Et quand on les regarde. C'est pas tout à fait pareil. Donc je pense que c'était important et pratique en fait d'avoir ce diagnostic parce que ça a pu je pense m'aider à comprendre, à accompagner et aussi peut-être se donner une sorte d'élan positif de se dire cette personne elle est comme moi et elle arrive à prendre soin des autres, elle arrive à avancer dans la vie et pareil de mon côté, j'étais super fière et contente de voir voilà ce jeune qui était autiste, qui avait des difficultés, bah, qui a réussi, qui a eu son bac avec mention quand même. Donc je pense que c'était une relation assez assez forte et puis qui nous tirait vers le haut parce que je pense qu'on pouvait voir tous les deux la façon dont on surmontait les difficultés et le faire ensemble. Et donc je pense que c'est positif.
Ouais, c'est très chouette. Je voulais aborder un sujet, une thématique avec toi, qui sont les troubles du sommeil, parce qu'on sait que ça joue un rôle en fait pour les personnes qui ont un trouble du spectre autistique. Est-ce que tu as eu des difficultés, tu as eu des troubles du sommeil?
Oui, le sommeil, ça a été mon ennemi numéro un depuis le premier jour. J'ai des troubles de sommeil et je les ai depuis ma naissance à peu près. Parce que en fait, depuis que je suis toute petite, j'ai toujours eu du mal à m'endormir. Mes problèmes de sommeil, sont vraiment liés à l'endormissement. Après, quand je dors, généralement ça va, mais j'y reviendrai plus tard. Mais le problème, c'est vraiment, vraiment l'endormissement. Et quand j'étais petite, j'avais très peu de problèmes. Je faisais pas de caprices, je mangeais tout, enfin tout allait bien, sauf ce problème de sommeil qui était vraiment récurrent. Et en fait, je voulais pas aller me coucher. Là je parle de quand j'étais bébé, mais donc mon papa devait rester allongé à côté de moi dans la chambre sur le sol pour m'endormir, il fallait me raconter des histoires, me mettre de la musique et je voulais pas aller au lit, et ça a continué en grandissant. Et donc durant mon enfance, adolescence, pareil, je voulais pas aller me coucher, donc quand j'étais dans ma chambre je continuais à jouer à mes jeux vidéo, je regardais des films en cachette, mais il s'agissait de tout faire sauf dormir. Et encore maintenant, j'ai des gros, gros problèmes pour m'endormir.
Tu disais que une fois que tu as trouvé le sommeil, tu n'as pas forcément de difficultés à dormir ou tu ne te réveilles pas pendant la nuit. C'est vraiment le moment en fait, d'endormissement pour toi qui est problématique, c'est ça?
Oui, c'est vraiment ça qui est problématique. Après, je dors beaucoup, mais mon sommeil est assez lisse. Mais c'est vrai que je dors beaucoup. Je peux sans problème faire des nuits de 10-12 heures sans aucun problème. Mais en situation exceptionnelle, donc c'est pas mon problème principal. Le problème principal, c'est l'endormissement. Mais en cas de situation exceptionnelle, je vais pouvoir beaucoup me réveiller. Par exemple, ce matin, j'étais un petit peu stressée. Enfin, depuis hier, j'étais un petit peu stressée à l'idée du podcast. Et donc, j'ai eu un petit peu de mal à m'endormir, évidemment. Et ce matin, en fait, j'avais peur de pas me réveiller, ce qui fait que pendant ma dernière heure et demie de sommeil, je me suis réveillée toutes les 10 minutes pour vérifier l'heure, pour vérifier que j'avais pas raté, que j'allais me réveiller à temps. Donc voilà, ce matin, je me suis réveillée toutes les 10 minutes et je regardais mon téléphone et je me rendormais. Et puis je me réveillais parce que j'étais en stress pour l'heure, mais ça arrive vraiment rarement.
Ouais, c'est aussi lié à tes émotions, c'est ça?
Oui, tout à fait. En fait, il y a plusieurs choses quand j'arrive pas à m'endormir. Je dirais qu'il y a à peu près plus ou moins trois facteurs. C'est que par rapport à mes émotions, c'est que ça peut être, si c'est par rapport à la journée que je viens de passer, ça peut être soit de l'euphorie parce que j'ai passé une super journée et que je suis en train de faire des trucs super avant d'aller me coucher, j'ai envie de continuer. Ça peut aussi être lié à de la frustration de j'ai pas fait tout ce que je voulais aujourd'hui, donc j'ai pas envie d'aller me coucher. Et il y a aussi la question de par rapport voilà, à la journée qui passe, c'est que la nuit, je me sens beaucoup plus libre que la journée, je suis beaucoup plus seule, j'ai beaucoup moins d'impératifs. Et donc c'est vrai que rester éveillée la nuit, ça peut me permettre de faire beaucoup de choses et que je peux pas faire le jour. Et donc ça, c'est vrai que ça me motive pas à aller me coucher. Donc ça, c'est quand c'est par rapport à la journée que je viens de passer. Mais sinon, quand c'est par rapport à la journée future, ça peut être soit du coup à cause du stress, parce que j'ai peur de pas me réveiller, parce que j'ai peur de pas avoir le temps de tout faire demain. Et donc ça m'empêche de m'endormir correctement parce que je suis stressée. Donc quand c'est des émotions comme voilà, le stress, l'angoisse, l'appréhension, ça va m'empêcher de dormir. Mais parfois, ça peut aussi être des émotions positives. Quand je suis trop excitée par rapport à la journée de demain, je vais pas réussir à dormir non plus. Par exemple, j'avais fait un anniversaire surprise. Enfin, j'avais prévu un anniversaire surprise et la veille, j'ai pas réussi à dormir jusqu'à 7h du matin parce que j'avais trop trop hâte. Ça peut me faire pareil parfois quand je prends le train très tôt pour aller en vacances, par exemple, où j'ai super super hâte et du coup, j'ai vraiment du mal à m'endormir.
Je rétro-pédale un peu, mais tu disais justement que tu avais ces troubles du sommeil depuis que tu es toute petite. Est-ce que tes parents ont mis des choses en place comme des petites routines, des petites habitudes pour t'aider à t'endormir ou ça fonctionnait pas du tout?
Alors, ça fonctionnait plutôt bien. En fait, on faisait un peu des compromis parce que du coup, c'est vrai que moi, je voulais pas aller me coucher. Donc, on avait plusieurs choses. Il y avait la musique. La musique, ça m'aidait beaucoup. C'est que j'avais un lecteur CD et le soir, je choisissais mon album et il mettait mon album. Et donc ça, généralement, ça arrivait à me calmer, à m'empêcher de ruminer et ça m'endormait. Après, on avait un jukebox dans le couloir aussi. Donc, parfois, j'avais le droit à deux chansons sur le jukebox. Et sinon, donc oui, c'est vrai que mon père ou ma mère me lisaient des histoires. Et ce qui m'aidait, moi, je lisais des livres avant d'aller me coucher quand j'étais en âge de lire, évidemment. Je lisais des livres avant de dormir. Et après, voilà, j'avais ma musique. Ou parfois, quand c'était pas des albums de musique, j'avais des extraits de films Disney qui étaient lus à voix haute dans mon lecteur CD. Et donc, qui me permettaient de m'endormir aussi, donc ça marche, ça atténuait un petit peu, ça marchait, mais il y avait des soirs où ça marchait pas et où en fait je me mettais à pleurer pour à peu près aucune raison et je pleurais jusqu'à ce qu'ils viennent me voir et que je leur expliquais que je me sentais pas bien, tout ça, mais que voilà, c'était surtout que je voulais pas dormir.
On parlait tout à l'heure de tes émotions, mais est-ce qu'il y a une routine dans la journée qui permet peut-être là actuellement de t'aider à dormir?
Alors oui, un petit peu. Au niveau des routines, je suis en fait le soir quand je dors chez moi, j'ai des habitudes très précises. Enfin, typiquement tous les soirs, du coup, je me mets contre ma moitié avec j'ai une peluche, mon doudou et ma tête au-dessus, et on regarde des vidéos. C'est pas conseillé de perdre le téléphone avant de dormir. Mais bon,
je crois que on est beaucoup à le faire.
et donc on regarde des vidéos, les vidéos du jour qu'on s'est envoyées sur son téléphone. Quand on est fatigué, on se tourne. Et moi, là, généralement, je vais regarder une vidéo. Je dors souvent dans la même position, d'ailleurs. En fait, moi, ce qui marche sur moi beaucoup, c'est la méditation. Donc, pas toutes les méditations, mais en fait, les méditations guidées. Ça fonctionne très bien sur moi. En fait, je mets des vidéos ou des audios que j'écoute. Ce que j'écoute beaucoup, c'est Mike Méditation et Murmure Nocturne. Et donc en fait j'écoute ces méditations, il y en a qui marchent mieux que d'autres. Celle qui marche très bien sur moi, c'est celle où en fait il faut qu'on fasse des choses, parce qu'en fait sinon mon esprit divague et ça va pas m'empêcher de stresser. Mais en fait les méditations, notamment où on part du haut et qu'on détend notre corps vers le bas, qu'on détend les muscles du front, les paupières, les joues, le menton, Ça m'aide beaucoup à, ça m'aide vraiment beaucoup à m'endormir. Ça m'aide à me concentrer. Plus que les méditations, on s'imagine ailleurs. Ça marche aussi, mais un petit peu moins bien sur moi. Et après, de toute façon, dans les méditations, il y en a qui marchent plus que d'autres parce qu'en fait, je pense que c'est important de, bah, d'écouter ce qui nous plaît et de faire attention au contexte. Parce que moi, par exemple, les méditations où on est à l'intérieur et qu'il y a de la pluie contre la fenêtre, ça, moi, ça me va très bien. Les méditations où on est à côté des cheminées, ça me va très très bien. Mais les méditations, par exemple, où on est au bord de l'eau, sur la plage ou des choses comme ça, moi, ça m'apaise pas du tout et je sais pas du tout un environnement où je me sens, où je me sens vraiment dans mon cocon. Donc c'est donc les méditations ne marchent pas, mais je pense qu'après ça c'est du c'est de l'essai en fait, on peaufine avec le temps nos choix.
C'est
Et
ça.
ce qui marche aussi pour moi comme routine, ça c'est notamment quand je dors à l'extérieur, c'est qu'en fait je prends des un drap housse, une place, et je le retourne et en fait je l'enfile comme un sac de couchage. Et en fait ça va beaucoup m'aider à dormir chez des gens que je connais, mais chez des gens qui sont pas ma famille proche ou je suis pas chez moi, parce qu'en fait du coup je touche pas forcément le matelas, le drap, je suis dans une sorte de petit cocon, je suis bien emballée, et ça du coup ça peut m'aider à dormir chez n'importe qui parce que j'ai pas ce stress d'être dans un lit que je connais pas, donc je suis bien emballée et ça m'aide à m'endormir quand je suis pas chez moi.
Ces petits rituels, ça t'aide aussi à gérer un peu ton anxiété et ton stress? Ça dépend des jours.
Ça dépend, voilà. En fait, ça dépend du niveau, parce qu'il y a ça aussi en fait que je dois prendre en compte quand je me couche ou quand je mets en place des choses. C'est là, ce soir, je suis à quel niveau de fatigue, je suis à quel niveau de stress. Et par exemple, en fait, je vais parler de la méditation, mais parfois je regarde des vidéos YouTube. Et enfin, je les regarde pas vraiment. En fait, je mets des vidéos YouTube qui m'intéressent assez peu. En fait, juste assez pour que je puisse les écouter. Mais juste assez peu pour qu'elles me maintiennent pas éveillée, que j'ai pas besoin d'avoir les yeux ouverts en train de regarder. Et donc ça, quand je suis pas trop stressée, mais que je vais quand même avoir du mal à m'endormir, je regarde ça parce que ça me demande pas d'effort, voilà. Mais quand je vais être vraiment dans plus stressée, là, je me tournerai plus vers la méditation.
D'accord.
Et j'ai pas dit, mais en fait, j'ai aussi des médicaments pour dormir parce que du coup, je suis suivie par un psychiatre qui me prescrit des médicaments qui peuvent m'aider à dormir.
J'allais te poser la question si tu avais des thérapies spécifiques, mais c'est surtout tes rituels en fait que tu mets en place qui t'aident à trouver le sommeil finalement.
Oui, c'est surtout mes rituels.
Ton entourage, tes proches, comme tu en parles pas mal, est-ce qu'ils ont contribué aussi à te soutenir et à t'aider à trouver des solutions quand c'était un peu problématique de trouver en fait le sommeil?
Oui, alors pour le coup j'ai de la chance parce qu'ils ont été patients, parce que c'est vrai que c'était pas toujours facile et que du coup j'avais pas forcément de raison de pas dormir. Et donc c'est vrai que mes parents ils ont toujours été assez patients par rapport à ça et ils savent maintenant en fait, ils savent que j'ai du mal à m'endormir et donc ils sont très empathiques et ils savent par exemple que le matin il faut pas compter sur moi. Et donc ça, voilà, ils savent que le matin c'est grasse matinée, ils auront tendance à pas me réveiller sauf si je leur demande ou sauf s'il faut, mais ils ont compris que par rapport à ça, il fallait qu'ils pouvaient pas faire grand-chose en fait, que c'était pas forcément de mon ressort et que ça allait au-delà de simplement je veux pas dormir, je veux faire la fête. Donc c'est vrai qu'en fait ils vont comprendre ça. Quand j'étais plus petite, c'était plus compliqué de leur dire parce que du coup je faisais pas mal de bêtises la nuit et donc je pouvais pas forcément leur dire oui, j'ai joué à la DS jusqu'à 4 heures du matin. Mais maintenant, je peux plus leur dire et je pense qu'ils comprennent mieux. Et c'est vrai qu'évidemment, ils ne me disputent plus parce que j'ai plus forcément mal. Mais aussi qu'ils vont savoir comprendre et dire, ah, oui, cette nuit, t'as eu du mal à dormir, comment ça se fait, tout ça. Essayer d'en parler avec moi et dire, oui, mais là, d'accord, donc t'es stressée, mais tu peux pas faire ça, ça ou ça. Et pareil, ma moitié m'aide beaucoup parce qu'en fait, elle sent. Comment je me sens quand je suis excitée, elle dit bon, là c'est l'heure de la méditation, tu vas mettre ta vidéo et puis voilà. Et bah, typiquement, il y a une période où en fait les vidéos que je mettais pour m'endormir, c'était des vidéos de faits divers, de crimes, de meurtres, des choses comme ça. Et étonnamment, je faisais énormément de cauchemars. Les soirs où je regardais ça, mais moi en fait j'adorais ces vidéos, et puis je dis là, oui, bah, ça m'endort, ça marche bien. Et ma moitié un soir, elle a dit bon, ce soir, il n'y a pas de vidéo. Et après, après, elle m'a interdit, elle m'a dit, tu ne regardes plus ces vidéos avant de dormir. Et depuis, je ne fais plus de cauchemars. Donc, donc drôle de coïncidence. Mais donc oui, ils sont à l'écoute, ils font attention et ils essaient de comprendre, je crois.
Il y a une question qui me vient en tête. Je voulais savoir si, tu sais, au fil de ta vie, tu vois, entre l'enfance, l'adolescence, la vie de jeune adulte, est-ce que tu as remarqué une fluctuation justement de ton rythme de sommeil ?
Alors oui et non. En fait, ça dépendait plus de mon rythme de vie la journée, en fait. Parce que c'est vrai, bah, quand j'allais à l'école ou des choses comme ça, j'étais fatiguée, j'avais pas le choix. Et quand je suis arrivée en post-bac, j'ai eu beaucoup d'emplois du temps qui ont varié. Notamment quand j'étais à la fac, par exemple, c'était assez problématique parce qu'en fait, il y avait des jours où je faisais des journées relativement normales où voilà, je travaillais j'allais en cours à 9h, donc voilà. Mais après, il y avait des journées où je travaillais pas du tout. Et donc là, je me réveillais à 14h. Enfin, du coup, en fait, j'essaie d'adapter mon sommeil plus ou moins à mon rythme de vie, comme je peux, évidemment. Mais c'est vrai que mon sommeil, en fait, il va. Dans tous les cas, je vais me coucher tard et ça va juste être comment la journée j'arrive à contrebalancer ça qui va plus jouer sur le reste, voilà, sur mon quotidien.
Est-ce que justement, toi, tu as des conseils à donner à des personnes qui ont un trouble du spectre autistique et qui ont justement des troubles du sommeil, que ce soit l'endormissement ou justement des réveils multiples durant la nuit?
Alors, je pense que ce qui est très important, c'est toujours, ce qui est important de toute façon, c'est de s'écouter et d'essayer. Moi, je suis beaucoup dans l'analyse, donc je pense que ça peut aider. Le problème avec les personnes autistes, c'est que on peut avoir besoin d'aide pour l'analyse. Parce qu'en fait, une personne neurotypique, elle va pouvoir se dire, là, je sais très bien ce que je ressens, je sais très bien à quoi c'est dû. Et ensuite, elle va pouvoir contrebalancer et agir en fonction. Mais les personnes autistes, elles peuvent avoir du mal à cibler ce qu'elles ressentent, par exemple. Donc, c'est important, je pense, d'avoir éventuellement des interprètes ou des personnes qui aident, voilà, quand on se tourne vers des professionnels ou même des membres de notre famille, qui peuvent nous dire, voilà, qu'est-ce que tu ressens? Est-ce que tu es plutôt content, pas content? Et ensuite, essayer d'affiner comme ça. Mais donc, je pense que voilà, c'est très important de s'écouter. C'est très important d'avoir de la patience aussi, parce que moi, je me rends bien compte que maintenant, j'arrive un peu mieux à gérer mon sommeil, mais c'est parce que j'ai eu beaucoup de pratiques, j'ai eu beaucoup d'essais divers et variés de si je fais ça avant de dormir, qu'est-ce qui se passe? Si je mets ça en place? Est-ce qu'il faut que je dorme plus, moins, tout ça? Et donc ça vient avec le temps, donc je pense qu'il faut avoir de la patience, à la fois quand on est la personne concernée et à la fois quand on est dans l'entourage, parce que on peut pas faire grand-chose pour remédier à ça, donc c'est important d'avoir de la patience et de pas juste dire « maintenant tu dors » parce que si on pouvait dormir, on dormirait. Et donc voilà, je pense qu'en fait, ce serait le plus efficace pour moi en tout cas, ça a été vraiment d'analyser, en fait de dire « ce soir, j'ai fait ça, 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 je me sens comme ça, et voilà. Et le soir d'après, je fais ça, 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 je me suis sentie comme ça, et j'ai mis tant de temps à m'endormir. » Et ensuite, donc, voir éventuellement avec des professionnels, donc soit affiner l'analyse, soit voir comment on peut faire pour régler les problèmes. Donc par exemple, si c'est certains stimuli, par exemple, voilà, je sais que je suis stressée les soirs où j'ai des contrôles le lendemain. On ne peut pas supprimer les contrôles, mais ce qu'on peut faire peut-être, c'est essayer du coup d'atténuer le stress par rapport au contrôle pour pas qu'ensuite ça ait des répercussions sur le sommeil. Donc voilà, essayer de gérer si c'est quelque chose qu'on peut supprimer ou pas. Parce que par exemple, si on se dit, par contre, quand je joue aux jeux vidéo le soir, j'arrive pas à m'endormir, dans ce cas-là, on enlève ce stimuli-là. Et donc je pense que voilà, il faut essayer d'affiner en fonction de ce qui se passe et qu'il y a vraiment une question d'analyse, enfin un peu mathématique, quelque chose d'un peu mathématique, de je fais ça, il se passe ça, je fais pas ça, il se passe ça. Et ensuite, d'analyser. Mais voilà, là où je pense que c'est plutôt différent avec les personnes autistes, c'est que ça peut faire du bien d'avoir quelqu'un pour analyser, d'avoir quelqu'un pour aider, parce que je sais que moi, par exemple, j'ai beaucoup de mal à identifier mes émotions, à les ressentir, ou voilà, justement, une émotion va se traduire par de l'excitation, par du stress, par de l'angoisse, alors que c'est pas forcément ça, ce que je ressens en premier lieu, mais ça va m'empêcher de dormir, et donc c'est bien d'avoir quelqu'un à côté qui dit, oui, mais là, en fait, t'es excité, mais c'est parce que tu ressens ça, ou parce qu'il y a ça demain, et ensuite essayer de gérer en fonction de ça.
Ouais. Non, c'est hyper intéressant. Ça me fait penser à ce que tu disais aussi tout à l'heure sur le fait que, bah, du coup, parfois, tu pouvais jouer jusqu'à 4h du matin après t'endormir. Comment est-ce que tu gères la fatigue sur la journée Est-ce que tu as trouvé des choses à mettre en place ou alors il faut juste attendre?
Eh ben, ça dépend, mais j'ai pas. J'ai alors déjà j'ai du mal à faire des siestes, sauf en cas de fatigue vraiment extrême. Sinon, j'ai vraiment du mal à faire des siestes. Mais la journée, en fait, quand je fais pas grand chose la journée, je m'endors. Tout simplement, c'est que si je dois écouter quelque chose pendant longtemps ou quoi, j'arrive pas à lutter, donc je m'endors. Donc c'est pas très pratique. Mais c'est vrai que au lycée, par exemple, j'avais des gros gros problèmes de sommeil et des gros gros problèmes tout court. Et donc j'avais le droit de dormir en cours. Et c'est vrai que les cours qui étaient un peu trop théoriques, un peu trop magistraux, je m'endormais mais profondément. Donc ça c'est un peu embêtant. Maintenant je le fais moins. Mais typiquement quand j'ai pu travailler l'année dernière, c'était assez loin de chez moi. Ce qui fait que j'avais plus d'une heure de transport et donc typiquement je m'endormais dans les transports, tout simplement dans le métro, je tombais et je m'endormais. Et ça me permettait de faire un petit test le matin sur mon niveau de fatigue parce que je savais qu'en fonction d'à quelle profondeur je m'endormais dans les transports, si c'était juste je somnole ou si c'était vraiment bouche ouverte et à deux doigts de ronfler, que je savais que la journée allait être plus ou moins difficile. Mais du coup, en fait, avoir ça, ça me permettait en fait d'anticiper ma fatigue sur la journée. Et en fait, quand on est fatigué, on est un peu moins patient. Et du coup, il y a des moments dans la journée où en fait, je me rendais compte que là, j'avais l'impression que c'était un peu pas too much, mais en fait, des moments dans la journée où je sentais que j'arrivais un peu à bout de patience, j'arrivais en fait à me dire, est-ce que tu arrives à bout de patience parce que effectivement, ça mérite d'être à bout de patience, ou est-ce que tu es à bout de patience parce que tu es fatigué? Et donc, en fait, me dire ça, je me disais oui, en fait, c'est clairement la fatigue qui me fait penser ça. Et donc, j'essayais de faire le point inverse. Quand je réalisais ça, je me disais, bon, ok, donc là, c'est juste la fatigue, donc je vais pas surréagir. Et donc, j'essayais d'arriver à atténuer un peu ces sentiments négatifs, d'être un petit peu plus à fleur de peau, tout ça. Comme j'arrive à me rendre compte que je suis fatiguée et que c'est probablement lié à la fatigue, j'essaie au maximum d'atténuer ce que je peux ressentir.
C'est hyper intéressant ce que tu dis parce que on se rend compte qu'en fait finalement tout est un peu lié entre la gestion du sommeil, la gestion des émotions, les activités qui sont prévues, que ce soit la veille ou la journée. Et un peu dans la même veine de tout à l'heure où tes conseils pour les personnes qui ont un trouble du spectre autistique, mais là, quels conseils tu pourrais donner aussi à un professionnel de santé qui doit orienter justement une personne autiste sur ses problèmes de sommeil?
Je pense toujours pareil, je pense qu'il y a une vraie question de patience. Parce que, effectivement, non seulement il faut tester, ça met du temps de tester, d'essayer, et je pense qu'il faut de la patience parce que ça peut paraître un peu, bon, les professionnels sont formés normalement, mais c'est vrai que ça peut paraître un peu absurde et un peu énervant d'avoir une personne en face qui arrive pas à dormir, qui sait pas expliquer pourquoi. Parce que c'est vrai qu'on arrive, on dit, ah bah quand je suis content, je dors pas, ah bah quand je suis pas content, je dors pas, ah bah quand je ressens rien, je dors pas, ok. Et donc c'est compliqué. Et puis il y a aussi cette question de, en fait, pas d'être sans issue, mais c'est vrai que moi, par exemple, quand je joue aux jeux vidéo, c'était pas pour m'aider à m'endormir, hein, on va pas se mentir. Mais en fait, j'avais tellement pas d'autre idée, pas d'autre choix. En fait, c'était ça. En fait, c'était soit je joue à Pokémon jusqu'à 4h du matin, soit je rumine et j'angoisse jusqu'à 4h du matin. Donc, c'était pas la solution. Mais à court terme, c'était ce qui m'aidait, en fait, et c'était ce qui me permettait de pas passer une nuit trop horrible. Donc, je pense que c'est à prendre en compte. Donc, je pense qu'il y a vraiment cette question de patience, de. C'est pas juste un caprice, même s'il arrive pas à cibler ce qu'il ressent, il essaye. Et donc je pense qu'il y a ça, et je pense qu'il y a vraiment, en fait, je pense que le travail d'un professionnel de la santé à ce niveau-là, je pense qu'il y a vraiment un travail de traduction énorme, en fait. Vraiment un travail d'interprétation et vraiment un travail de dire d'accord, donc là tu m'expliques que t'es excité, demain t'as dit que t'allais faire ça, est-ce que tu penses que c'est lié, tu aimes bien faire ça, t'aimes pas faire ça. Donc tout ça, donc je pense qu'il y a un vrai travail d'interprétation. Donc je pense qu'il faut être vraiment à l'écoute de ce que peut dire la personne d'en face, même si c'est pas clair, même si ça semble pas faire de sens, c'est important d'écouter, je pense. Et voilà, vraiment la patience de se dire c'est pas juste des caprices. Et effectivement, il ressent des choses, mais s'il peut pas les expliquer, c'est pas de sa faute. Et donc avoir ce travail, vraiment d'interprétation, je pense.
Chouette, parfait. Bah, merci beaucoup Salomé pour tout ce que tu nous as confié. C'était un épisode très très chouette et je pense que ça va aider pas mal de personnes.
Bah, merci à vous.
Merci beaucoup à vous d'avoir écouté cet épisode. Vous ne faites pas encore partie de la communauté Mapato ? Rien de plus simple pour la rejoindre. Rendez-vous sur mapato.com, mapato.com ou bien téléchargez notre application gratuitement sur Apple Store et Play Store. C'est pratique, rapide, gratuit, alors foncez. Pour soutenir le podcast Chronique, laissez 5 étoiles sur Apple Podcast et un joli commentaire sur votre plateforme de podcast préférée. Un grand merci à vous et à la semaine prochaine pour un nouvel épisode.